Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille le dimanche de 11h à midi. Aujourd'hui en compagnie de notre motard, de Patricia, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un auteur de polar qui est Jean d'Autricourt.
Jean-Paul d'Autricourt,
exactement.
Voilà, un bon auteur de polar.
Voilà. Et puis, nous allons partir en vacances. Bah oui, parce que dans un mois, on est pratiquement on arrive au 1er juin. Nous allons partir
en juillet.
Non, mais là,
on arrive au 1er juin.
Il est temps de penser aux vacances, je veux dire, Yanis.
Très largement.
Il est largement un temps de penser aux vacances. Et nous allons partir dans un pays où il fait toujours chaud, beau, où la mer est toujours présente. Un pays où que tu adores, Yanis, parce que forcément, tu es d'origine grecque.
Vous l'avez tous deviné, ouais. Et puis, j'en ai tellement marre d'entendre des conneries sur la Grèce que...
Alors voilà, je voudrais vous parler positivement. Tu sais que moi, je regarde les infos quand même, ça me fait un peu peur, un peu cette extrême droite qui monte un peu en Grèce, ça risque pas de te faire, piéger éventuellement, tiens, on va dire un Français qui se promène et tu sais, pour l'exemple, on va
lui casser la tête.
Tu seras pris à partie par ces gens, non?
Eh bien, l'ami, je vais parler comme un politicien, et ben je te remercie de me poser cette question, je vais m'empresser d'y répondre. Bon, attention, il ne faut pas faire de confusion, il ne faut pas non plus exagérer l'importance de l'extrême droite en Grèce. Hein, le parti d'extrême droite néo-nazi, c'est vrai que c'est des néo-nazis.
Attends, j'ai regardé les images.
Ils ont fait c'est des vrais salopards, c'est des vrais salopards qui font peur. Ouais. Bon, il y a deux partis d'extrême droite en Grèce. À deux, ils ont fait 10 ou 11%. Hein. On est loin des scores obtenus. Chez nous, en France, où on a dépassé 17%.
Ils sont vraiment extrême droite.
Ah, ils sont extrême droite.
Avec le.
Non, je pense qu'au Front National doit avoir une frange du Front National où on a un genre de crétin patenté, qu'on essaie de cacher. Voilà, donc il faut surtout pas avoir peur d'aller en Grèce. En tout cas, à cause de ça,
ça reste quand même extrêmement
marginal.
Tu étais là-bas il y a encore une semaine, 10 jours, je crois.
J'y étais il y a 10 jours. Il faut pas oublier que les législatives ont été remportées par le parti dit Syriza, qui est plutôt un parti proche de l'extrême gauche, enfin de l'extrême gauche du parti de Mélenchon, quoi, de la nouvelle gauche.
Et il y a 10 jours, il faisait quel temps là-bas?
Il y a 10 jours, quand on est reparti, il faisait pas loin de 30 degrés.
Oh, c'est fantastique, parce qu'ici, gelé.
Tous les jours.
Léger,
Dans les îles, il faisait une trentaine de degrés.
C'est fantastique. Écoute. Bon, ça va nous donner l'eau à la bouche, et puis on va essayer d'expliquer un peu comment on fait pour aller là-bas, pour les motards qui n'osent pas trop bouger de France. Parce que c'est vrai que le français reste plutôt en France, en vacances.
Moi, quand je suis à l'étranger avec
ma moto. La France, c'est beau aussi.
C'est beau, c'est très beau. Mais c'est vrai que quand je suis à l'étranger avec ma moto, souvent, je suis le seul français. Hein, quand je prends le ferry pour aller en Grèce, dans le bateau, quand il y a des motards, c'est
des
Allemands, des Italiens, des Autrichiens, des Anglais.
Effectivement. Et très peu de Français. Très peu de Français. J'en parle parce que je vais régulièrement.
Donc
on va pouvoir se faire un petit truc à deux.
Enfin, en tout bien, tout honneur, la niche.
Oui, ça va, c'est les blagues.
Oui, parce que là, moi, je vous écoute. Oui, puis je dois dire que j'ai aucun a priori. Par rapport aux Grecs en particulier.
Voilà. Bon, on n'est pas là pour dévoiler. Voilà, allez, on va passer notre premier morceau de musique avec un programme musical qui nous a été préparé par Laurent Rodier.
And if you don't believe a single word I say, check out this guitar, 'cause I'm ready to play. Life you choose.
That's right, son, no, you ain't got the blues.
La moto sur Radio Campus le dimanche de 11h à midi. Eh bien, Patricia, je m'excuse, je voudrais quand même revenir un petit peu sur ce fabuleux Grand Prix qui s'est déroulé la semaine dernière, le dimanche, donc au Grand Prix au Mans, hein, c'était le Grand Prix de France. Alors, on trouve pas les mots fantastiques, époustouflants, merveilleux, sublimes, mais quelle course de Moto 3. Bon, notre technicien s'est plaint de... Du son, mais bon, l'émotion était là quand même. Je sais pas si vous avez écouté, vous avez peut-être vu la télé, peut-être aussi.
J'ai mis la télé sur grand écran et en même temps je vous.
Et la radio, c'est fantastique.
C'était génial.
C'était mieux que les commentateurs à la télé. Hein.
Ceci dit, à un moment donné, j'ai cru que tu étais en train de te noyer.
Oui, bah alors je vais te dire que franchement, alors là, au niveau du temps, c'était le déluge. Bon, mais fantastique victoire de Louis Rossi, donc dans cette fameuse nouvelle catégorie Moto 3, hein, cette catégorie qui remplace donc. Les 125 cm cubes, donc ça s'est passé donc dimanche dernier, hein, dans la Sarthe, sur le circuit du Mans. Ce fut vraiment un très grand moment d'émotion, un moment de vie qu'il fallait absolument pas rater. Je vous dis, il fallait être là avec le public quand Louis Rossi a franchi la ligne d'arrivée. Le public s'est levé, il y a eu une clameur, mais sur tout le circuit ça a été fantastique parce que en fait il y a plein d'écrans, hein, sur le circuit du Mans. On peut donc voir à chaque fois la position des pilotes. Et ça a été vraiment un moment de joie et d'émotion. Vraiment, il fallait être là. Hein. Donc, tiens, je rappelle qu'il faut remonter en 2008 pour voir un pilote français gagner le Grand Prix de France. Et c'était Mike Di Meglio en 2008. Donc, tu vois que. Donc, les conditions au départ, bah oui.
Dantesque.
Il pleut des cornes. Mais écoute, je me demande comment les pilotes peuvent prendre un départ comme ça, parce que 33 pilotes, hein, 3 par grille. Donc t'imagines, 3 par grille. Donc le 33, la troisième, en fait j'ai calculé, il doit avoir 12 ou 13 grilles. Donc ça fait que les derniers sont pratiquement à 150 mètres de la première ligne. Tu penses bien que quand les premiers partent, pratiquement à la troisième ligne, c'est fini. Eux ne voient plus le,
la piste. Dans le brouillard
c'est le brouillard complet. Enfin, tu vois un peu quand tu roules en moto, quand tu doubles les camions sur l'autoroute, quelquefois, tu te dis c'est tout droit, il doit pas y avoir d'obstacle devant, hein.
Et toi, tu doubles les camions et
je double les camions et même, tu vois, je vois qu'il pendant une seconde, tu vois plus rien parce que tu es.
Ouais, c'est vrai, on a la sueur froide.
Voilà, donc, au terme du premier tour, Louis Roussy est remonté 6e. Il était parti, je crois, 12e. Donc, il faut déjà le faire parce que dans les conditions climatiques, qu'il y avait dimanche dernier, c'était pas facile. Après 4 tours, il ne reste déjà plus que 26 pilotes au bout de 4 tours sur 33 au départ. C'est pour vous dire que c'était pas facile de piloter une moto sur le circuit dimanche dernier. Au 13e tour, Louis Roussy est 3e. On s'imagine déjà, on se dit ça y est, un Français, donc sur la 3e marche du podium, hein, c'est tout le monde, on sent une effervescence dans le public, hein, on sent que tout le monde est content. Et puis c'est Oliveira qui est leader de la course. Au 16e tour, Oliveira chute, ce qui propulse Louis Rossi au deuxième de la course. Alors là, on se dit, c'est pas possible quand même. Et là, on se dit, mais peut-être que le premier, celui qui est premier devant Rossi, Vinales, peut-être qu'il va se planter, peut-être qu'il va tomber. Et c'est ce qui arrive, Yanis.
Génial.
Et on dit pas génial parce que un pilote.
Non, mais là, on souhaitait tous la chute.
Non, on souhaitait pas, mais bon, on se disait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Pourtant, c'est un bon pilote, hein, Vinales. Hein, c'est un bon pilote. Eh bien, Vlatipa, que Vinales chute. Et qui fait propulser Louis Rossi à la première place. Et alors là, ça a été fantastique. Parce que sur les écrans, on voit la chute de Vinales et on voit Rossi qui... Et là, on voit le public qui se lève et encore une clameur qui passe dans tout le circuit. Ça a été vraiment incroyable. Donc Rossi passe avec... Alors, premier de la course. Il est à 22 secondes d'avance sur Cortez. Hein, le deuxième, c'est le suivant. Le dernier tour, les derniers tours seront interminables parce qu'on se dit mais pourvu qu'ils fassent pas de conneries. Tu sais bien que les Français, quand on voit Rodrigue Dupuy qui a chuté carrément au départ, ça a été. C'était l'inverse.
Il me semble que c'était pas la première fois pour Rossi, si je me trompe.
Et donc là, les derniers tours, il reste 4 tours. Louis Rossi est en tête de ce Grand Prix de France, ce qui est incroyable quand même. Et donc on croise tous les doigts pour dire mais pourvu qu'il fasse pas de bêtises, qu'il ralentisse. Il a 22 secondes, il va rendre un petit peu la main. Ben non, il continue à prendre des secondes. Alors, c'est pas possible quand même. Bon, finalement il passe la ligne d'arrivée. Et là c'est la délivrance pour tout le monde, pour lui surtout, pour lui aussi et pour le public. Alors là c'est les hurrahs, c'est fantastique. Il fallait être là, c'était le Grand Prix qu'il fallait pas louper. Voilà. Et puis cerise sur le gâteau, on va vous passer le départ de cette fameuse catégorie Moto 3.
Thank you.
moto sur Radio Campus Lille le dimanche de 11h à midi et nous allons retrouver notre auteur de polar, Patricia, en ligne.
Oui, tout d'abord, je vais dire pourquoi j'ai eu envie de vous présenter l'œuvre de Jean-Paul Dautricourt. Parce que aujourd'hui, oui, j'avais envie, programme vacances, détente, bien-être, avec le soleil de ces derniers jours, on va virer moto, chambre d'hôtel sympa, surtout de se la laisser aller relax. Alors, un conseil pour bien y parvenir, pour moi, c'est aussi faire une pause récup avec un bouquin qui déconnecte complètement des contraintes quotidiennes. Alors, ce bouquin, pour ma part, moi, j'ai trouvé avec « Tourne la poignée Beaulieu hein, » de Jean-Paul, aux éditions Les Deux Encres. Et pour être honnête aussi, je l'ai acheté par hasard. Et par curiosité, parce que j'ai vu juste qu'il parlait moto et était écrit par un motard. En regrettant, bien sûr, qu'il coûte un petit peu cher pour une plongée comme ça dans l'inconnu de l'édition, parce que j'en avais pas du tout entendu parler. Et c'était un bonheur, ouais. J'ai fait une expérience concluante pour moi, car après l'avoir lu, je peux sans problème le recommander. Alors, cette rencontre, bon, au départ, elle s'est pas faite dès la première ligne. Hein. Il m'a fallu attendre la 12e page, mais bon, c'est pas trop long, pour voir accrocher mon intérêt avec l'entrée en scène de la ZZR. Voilà, je me suis plongée donc dans un bouquin en attente de précisions techniques sur les motos. Donc, il y a plein de choses, des modifications évoquées, plein de questions à venir pour ma part à poser aux copains parce que ça représentait pas trop de choses. Donc, c'est avec une attention de plus en plus soutenue que je suis allée accompagner le héros Pierre Beaulieu. Et sa femme Patricia l'a bien nommée dans leurs péripéties. Alors, nous avons effectivement le grand plaisir, Jean-Paul, que tu acceptes de participer à notre émission et que tu sois aujourd'hui à l'antenne. Alors, tu es l'auteur de ce deuxième bébé, hein, parce que Tourne la poignée Beaulieu, c'est le deuxième épisode d'une saga, dont le premier, c'est Cap Nord. Et là, donc, actuellement, celui-ci se trouve disponible. Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour. Oui, donc, bah, tout à fait. Alors, le premier de la saga, c'est Cap Honneur, hein, donc aux éditions Publibook, hein, qui sera un jour repris, j'espère, par Les Deux Encres, hein, si j'ai envie de la collection complète. Et puis, bon, j'espère faire une saga de 10, 20, 30 bouquins, peut-être.
Bah oui, parce que là, tu es déjà en train d'écrire le troisième épisode, oui, Beaulieu Save the King.
Voilà, tout à fait. Donc, là, notre héros va partir... on dirait au secours du prince de Bikeland, donc une principauté qui ressemble un peu à celle de l'île de Man, un paradis pour motards. Et donc notre prince va voir son fils enlevé, il rappelle à notre beau lieu national pour lui sauver la mise. Quoi. Donc moto, bonne humeur comme d'habitude.
Tu annonces déjà le quatrième en fait, et qui se passerait dans le monde de la MotoGP.
Tout à fait. Bon, je suis ami avec Hervé Poncharal, hein, donc le team manager du team Tech 3. Hein, et bon, c'est vrai que je lui ai promis il y a quelques années un bouquin sur la MotoGP. Et là, j'ai eu l'idée de le faire participer donc dans le futur tome 4 que je commencerai, je pense, d'ici 3 mois, le temps d'avoir fini le 3.
Alors, pour en avoir lu un, parce que moi, je vais me rattraper, hein, je vais lire Cap Nord maintenant, et pour donc en avoir lu un, le style, on retrouve toute la gouaille d'un genre romanesque. Je pense que t'as un père spirituel, tu me disais, t'y réfères complètement.
Ah, tout à fait. Hein, un certain Frédéric Dard, hein, bon, Santonio, qui, comment dire, n'est plus à présenter de nos jours, hein.
Tout à fait.
Oui. J'ai toute la collection. C'est vrai que je l'estime être mon maître de pensée. Hein. Puis bon, en fait, ce que j'écris, c'est un peu en hommage à ce grand homme.
Et c'est très agréable à lire. Mais c'est surtout aussi le prétexte à parler moto.
Ah, tout à fait. Bon, alors, je suis flic de profession. Donc, ça me permet de construire des histoires policières qui tiennent la route. Bon, la moto, j'ai commencé tout petit. On peut dire que, comme Obélix, je suis tombé dedans dès l'âge de 8 ans. Hein.
Tout à fait. Avec une lourde hérédité en la matière, parce que c'est ton grand-père qui avait déjà une moto.
Non, mais lui, enfin bon, oui, il roulait en moto.
Ouais.
Mais bon, moi, à cette époque-là, il n'avait plus que sa vieille mobilette bleue dans le fond du garage. Mmh. Et dès 8 ans, je prenais la mobilette et je partais dans les chemins, à proximité des circuits de motocross. Et puis, bon, je regardais tous ces gosses sur leur drôle de machine. Quoi. Puis, bon, j'étais fasciné. Et puis c'est venu très très vite, hein. J'ai commencé le motocross à l'âge de 12-13 ans.
Ouais, parce qu'il faut préciser, hein, ça c'est un grand hasard, tu vis actuellement en Haute-Normandie, mais en fait tu es originaire du Nord.
Ah, tout à fait, tout à fait. Je suis né à Carvin, dans le Pas-de-Calais.
Ah, bah voilà. Alors, les copains, tout de suite, ils sont là. Waouh.
Bien sûr, je salue le motoclub carvinois, parce que je sais qu'ils sont très, très dynamiques. Hein. Ils sont sur ma page Facebook, d'ailleurs.
D'accord.
Et bon, j'habitais, moi, personnellement, à Melun.
Hein, oui, oh, bah alors.
3 kilomètres.
Alors, à Melun, il y a une célèbre bière bien connue. Je ne sais pas si tu connais.
Bon, écoute, moi, j'ai quitté...
Non, t'es pas spécialisé de la bière, peut-être.
Il y a plus de 20 ans. Hein,
ah.
Ça n'existait pas.
Oui, je pense, parce que là, franchement, ça ne me dit rien. Hein.
Il faut qu'on trouve un moyen pour que tu goûtes la bière qui quinquou.
Ah bah écoute, c'est
donc,
promis. Hein.
Je te propose, Jean-Paul. Voilà. Alors, je te propose, c'est de nous retrouver après la pause musicale, et je te laisserai la parole. Hein.
D'accord.
Allez, à toutes.
Sur le 106,6 de Radio Campus, la moto, les motards, le dimanche de 11h à midi, avec notre auteur de polar, Jean-Paul Dautricourt, papate.
Oui, Jean-Paul.
Qui est ton invité au téléphone.
Voilà, auteur de deuxième. Alors là, c'est parce que est sorti le deuxième volume qui est disponible dans les bonnes librairies. Il y a aussi hein, Jean-Paul. Donc tourne la poignée Beaulieu. Donc on le rappelle, c'est le deuxième livre de la série, de la saga qui rencontrera un grand nombre vu la richesse de ton imagination et toutes les idées que tu peux avoir puisque tu écris déjà le troisième tome, comme on le disait juste précédemment. Et aujourd'hui, se faire éditer, bande des livres, Est-ce que c'est comment? Dis-nous, parce que toi, riche de ton expérience, tu vas pouvoir nous expliquer.
Eh bien, c'est comme une course, hein. C'est quelque chose de très, très, très difficile. Comment dire, au jour d'aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins. Bon, il y a eu aussi Internet qui a fait que le numérique a un peu remplacé le papier. Et bon, j'ai frappé peut-être à 50, voire 100 boîtes d'édition, avec des refus un peu partout. Hein. Bon, le premier était fait sous forme d'auto-édition, j'avais payé. Bon, il n'y a plus de pub, il n'y a rien eu, j'ai dû tout faire moi-même. Bon, ce n'était pas évident du tout. Bon, le deuxième, les deux encres, c'est une petite boîte dynamique hein, qui m'ont fait confiance. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier au passage.
Hein. Et, oui.
Voilà.
Oui, oui, moi j'étais, je connaissais pas comme maison d'édition. Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait une belle présentation. Et c'est un livre qui est agréable à lire et à avoir en main.
Oui, oui. Mais c'est vrai. C'est vrai que franchement, bon, on s'est fait confiance mutuellement. Et visiblement, ça commence à porter des fruits. J'espère une longue collaboration avec cette boîte.
Tu as plein d'idées, Jean-Paul, parce que j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu que toutes ces modifications techniques là, hein, que je découvrais dans le livre, tu veux aller plus loin avec ça.
Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Oui, ouais. Oui donc la ZZR et la Yabusa Turbo.
Voilà.
Voilà, tout à fait. Alors donc, bon, il faut savoir une chose, c'est que il y a un parrain hein, pour cette saga, un certain Alexandre Deban, donc ex-animateur télé.
Effectivement, j'ai vu la jaquette.
Voilà, tout à fait, oui. Donc, on envisage à plus ou moins long terme, enfin, si cela est possible, bien entendu, parce que, bon, ce n'est jamais arrivé d'avance, ce serait de porter la série à l'écran, avec Alexandre en acteur principal.
Et c'est vrai qu'on se l'imagine bien.
Tout à fait, tout à fait. Bon, bah, Alexandre, je le connais bien. Puis, bon, c'est vrai que, bon, je l'ai vu tout de suite, moi, dans le rôle du héros. Il a la carrure, il a la stature pour ça, quoi. En plus, c'est un véritable motard, c'est un passionné, et c'est un véritable acteur.
Il t'inspire complètement. Et... Ah, oui. Donc, tu disais que tu avais évoqué, là, ce que je lisais, c'était que, justement, tu avais proposé hein, à la presse de te suivre un peu dans cette initiative, permettre de concrétiser les choses. Et apparemment, pas grand monde qui répond.
Voilà, tout à fait. Bon, il faut savoir que bon, je connais pas mal de journalistes de la presse spécialisée, donc particulièrement Motojournal, et bon... C'est vrai qu'ils ont relayé l'info, la sortie du bouquin. Bon, bah pour ça, je les en remercie. Bon, maintenant, c'est vrai aussi qu'un jour, c'était sur ma page Facebook, un de mes lecteurs qui m'a dit « À quand laisser des motos turbo ?» Bon, bah, j'ai trouvé ça, j'ai dit « Non, c'est pas possible. » Et ensuite, en réfléchissant bien, il y a une boîte dans le sud qui s'appelle Turnbike. Donc, c'est le seul préparateur en France de motos de ce type. Donc, ils préparent des Hayabusa, des ZZR, enfin tout ce qu'il y a de roues et un moteur. Bon, bien sûr, ce n'est quasiment jamais vendu en France. Hein. D'une, ça fait plus de 100 chevaux. Donc, bien sûr, avec notre ridicule loi, il n'y a pas beaucoup de marché chez nous. Donc, ce sont de riches passionnés étrangers hein, qui lui achètent ces machines-là. Hein.
Donc, une riche passionnée parce que ça a un coût aussi, comme tu l'évoquais.
Oui, oui. Bon, ben, il faut savoir que une Hayabusa ou une ZZR turbo à la sauce Turnbike, si on y ajoute toutes les options, c'est entre 50 et 60 000 euros.
C'est sûr que ça fait un budget.
Ah, c'est un sacré budget. Donc, Franck, le patron, j'ai eu le bonheur de l'avoir au téléphone et puis de lui expliquer mon projet. Et lui m'a dit bingo, il m'a dit, ouais, bah oui, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Hein, si Deban vient faire l'essai, moi, je te prête les deux motos. Il ne reste plus qu'à convaincre la presse. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, mais bon, à chaque fois, ce n'était pas dans la ligne éditoriale. Enfin bon, j'ai eu droit à des réponses un peu farfelues. Bon, quelquefois, on me laissait dans le vague.
Bah, savoir.
Oui, oui, oui. Alors, visiblement, aucun ne veut se mouiller. Alors, moi, mon but, c'était de faire un essai assez spécial. Hein, donc, bon, on aurait fait quelque chose genre roman photo. Et directement dans le cadre du bouquin, donc, Deban en héros principal, donc Fred Beaulieu le frangin sur sa X11. Patricia sur la Yabusa, et bon, on aurait fait un essai et une espèce de présentation du bouquin. Et on parlait de Turnbike. Bon, il y avait à gagner pour beaucoup. Hein.
Et on l'imagine bien. Je trouve, après avoir lu le bouquin, on l'imagine bien. Et juste rapidement, parle-nous de René.
Ah, René, celui par qui tout a commencé. D'accord. Bah, il faut savoir que tout au départ, j'ai commencé moi, à écrire sur le site Le Repère des Motards. Et bon, bah, très vite, on me demandait des petits textes, des essais. Et on pourrait dire, sur le forum, il y avait une espèce de petite guerre virtuelle hein, entre ce qu'on appelait les Jeunes et les Respectables. Donc, les nouveaux arriveront dans l'ongle, et puis bah, l'ancienne génération. Et un jour, pour me moquer un petit peu des deux clans, bah, j'ai eu l'idée de prendre un petit texte. Donc, j'ai inventé un personnage, un certain René G. de fois 30 ans. Donc, petit pépère qui gatouillait sur sa vieille moto, et qui un jour se fait doubler par Valentini Rosso, le fils du concessionnaire du coin. Il en prend ombrage, il s'achète un Kawasaki 1300 V6, il apprend à piloter, mais il a du mal. Donc, il va faire un stage avec Christian Sarron, au Mans. Et à la fin du stage, il en vient à tourner plus vite que Christian Sarron lui-même. Et c'est parti pour 500 pages de délire.
D'accord. Et puis, voilà. Qui est accessible actuellement?
Ah oui.
Gratuitement.
Tout à fait. Voilà. Donc, ce bouquin, je n'ai jamais voulu le faire publier. Il était pour Le Repère des Motards. Donc, il est toujours en ligne. Un rubrique récit. Hein. Donc, c'est la route à la piste. Hein. Donc, c'est ce que j'appellerais du jeu marquement au texte.
Génial. Bah écoute, on te remercie beaucoup, Jean-Paul. Et puis, on souhaite de super ventes hein, pour ton poignée Beaulieu. Et puis, on attend Beaulieu Saves King.
C'est moi qui vous remercie. Hein. Je vais tout faire pour, en tout cas.
À très bientôt. Au revoir. Allez.
Après Jean-Paul de Tricourt, nous retrouvons Raphaël, le trésorier du festival Moto de Bouchain. C'est pas pareil, Patricia, mais quand même, il faut parler de ce festival parce que ce festival va se dérouler le 2 et 3 juin. Raphaël, est-ce que tu nous entends ?
Tout à fait. Alors, bonsoir
bon,
à tous.
Bon, non, bonjour Raphaël.
Bonjour.
Bonjour. Et donc ce festival aura lieu donc le 2 et 3 juin, c'est-à-dire le week-end prochain.
Oui,
tu peux nous donner un petit peu le programme?
Alors comme chaque année, on aura un festival qui va s'étaler sur le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Les deux journées, on va pouvoir proposer des acrobaties en stunt avec plusieurs shows, Aqua 22, Guigui Stunt, Thème RSR. On a également du trial vélo, puisque on veut proposer des choses un petit peu différentes. On aura également plusieurs concerts, donc on a trois concerts sur le week-end. Le samedi, on démarre également par une rando quad, donc c'est du deux roues, mais on n'est pas hostile aux amis quadistes. Il y aura également le dimanche matin une brocante moto, donc c'est la deuxième, ça démarre petit, mais bon, on espère que ça va prendre de l'ampleur. Et voilà, donc des beaux choix en perspective.
Oui, pas sûr. La balade, c'est une balade de combien de kilomètres? Ça va durer combien de temps?
Le dimanche à 11h, départ d'une balade dans les communes environnantes, donc ça va être une balade effectivement de 40 à 50 kilomètres, faut compter une bonne heure puisque ça roule doucement.
Et c'est ouvert à toutes les motos?
C'est ouvert gratuitement à toutes les motos, évidemment.
Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le style, la musique pour les concerts, le style de musique?
Alors, on a toujours pareil, on aura du rock, hein, donc Evans Colt qui est un groupe qui vient du centre de la France, Storm qui est un groupe nordiste, et Rodolphe 777 qui est un grand guitariste qui a déjà enregistré plusieurs albums, qui est un Valenciennois, donc qui est local. Donc toujours axé assez rock.
Donc ça c'est pour le samedi soir, hein?
Alors on aura le concert samedi soir, le dimanche midi, plus Rodolphe qui
d'accord.
Vient
et donc,
en guest.
Et la balade moto, c'est pour le dimanche à 11h, hein?
La balade moto, dimanche 11h. Départ, voilà, en moyenne, il y a 7 à 800, voire 1000 motos.
Un salon moto, comment c'est couvert ou comment c'est à l'extérieur?
Alors, le salon moto se fait au centre-ville de Bouchain, donc là, sur une piste de 400 mètres de long. Ça, c'est en extérieur. Et on a la salle des sports où on a à peu près 80 exposants au total. Donc une partie à l'intérieur et une partie en extérieur avec, comme d'habitude, des produits moto, donc tout ce qui tourne autour du monde de la moto en général.
Eh bien écoute, Raphaël, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle quand même que l'entrée est gratuite. Eh bien ça, il faut quand même le souligner.
Il faut le dire.
Il faut le dire quand même, voilà. On peut retrouver les infos sur... vous avez un mail?
Voilà, on a...
Comment ou un courriel même.
Un site, voilà. Donc le site, il suffit de taper Festival Moto de Bouchain sur Internet. On tombe dessus, c'est un blog, hein.
Oui.
Voilà.
Très bien. Et on retrouve aussi les infos. On retrouve aussi les infos sur le calendrier de Kikinkout et Tupal.
Bien sûr. Bien
voilà. Sûr. Merci et voilà. Bon dimanche.
Merci.
Et puis en espérant qu'il fera très beau hein, le week-end prochain hein, avec beau soleil comme aujourd'hui.
Voilà.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
thrills. If I can make it through life's chilling spills, give me a pill now.
Chose promise, chose due, on part en vacances cette fois-ci, c'est sûr. Après notre auteur de Polar, après le festival de Bouchain, direction, et là ça va nous donner chaud au cœur, direction un pays où il y a que de l'eau en fait, hein. Il y a pratiquement de l'eau tout le temps. Tu peux toujours trouver une plage à 50 km.
Ouais, hein, il n'y a pas un point de la Grèce, il soit distant de plus de 70 km de la mer.
Alors voilà. Yannis, tu vas nous donner quelques petits conseils.
Petits conseils pour y aller.
Pour se rendre là-bas, il y a plusieurs moyens.
Il y a plusieurs options.
Mais en moto, bien sûr.
Moto, là, je parle bien de moto ou de sidecar.
C'est quand même c'est le pays de la moto. Enfin, sans déconner.
Il y a des mécanes partout. Il y a des mécanes partout. Les Grecs ont beaucoup de motos et il y a beaucoup de motards européens qui vont en Grèce. Hein. C'est pas très compliqué, hein, ça paraît très loin la Grèce, mais finalement c'est assez facile. Hein. Alors on a plusieurs options pour y aller. On peut choisir l'option.
Ça dépend.
Route.
Si tu prends l'option bateau, voilà. Ou si tu prends l'option route. L'option alors là, route, ça te fait quand même pas mal de bornes. Hein.
Voilà. Alors si on prend l'option route, il y a 3000 bornes de Lille. Hein,
pour la frontière nord de la Grèce. Hein.
Pour Athènes.
Ah pour Athènes.
Pour Athènes, il y a 3000 km.
Si Athènes, tout le monde doit Athènes.
Athènes, c'est à peu près au milieu de la Grèce, juste au nord du Péloponnèse. Ça, c'est en passant par la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, l'ex-Yougoslavie.
Voilà.
Et puis, on débouche au nord de la Grèce. Là, ça fait à peu près 2500.
Ce sont des pays maintenant sûrs, on peut traverser.
Oui, ouais, il y a des autoroutes qui traversent ça rapidement.
Sans craindre de problème.
Ouais, absolument.
Il y a quand même une époque où
il valait mieux pas.
La Yougo, c'était un peu chaud quand même.
Il valait mieux pas. Je me suis dit, c'est quand même 3000 km. C'est chaud quand même.
Il faut
s'étaper. Alors, pour moi, la meilleure solution, c'est de prendre le bateau en Italie.
Moi, c'est ce que je fais tous les ans. Hein.
Pour moi, c'est le meilleur compromis. Mais là aussi, on a plusieurs options. Hein. D'abord, pour aller en Italie, on a la solution. On traverse la France et les Alpes françaises. C'est assez cher parce que les péages sont chers et en plus, si on n'a pas le temps, on prend les tunnels et les tunnels du Mont Blanc ou du Mont Cenis sont très chers. Il faut compter 35 euros le passage aller et autant pour l'autre.
Même en moto. Tu peux éviter de prendre le tunnel de Fréjus. Tu peux passer
par le col. C'est plus sympa.
C'est sympa. Si fait beau,
bien sûr.
Si t'as pris le temps de partir un peu.
Tout à fait. Alors il y a une deuxième solution qui est plus économique et pas plus. Alors c'est un peu plus long en kilomètres, mais finalement on y gagne au niveau argent. Hein, c'est de passer par la Belgique, le Luxembourg, l'Alsace, rejoindre la Suisse par Bâle. On traverse la Suisse du nord au sud jusqu'à Milan. Enfin, on débouche là au nord de Milan. Et ensuite, direction... on verra après. Et là, il faut s'acquitter d'une vignette de 40 euros qui est valable à l'aller comme au retour.
Ah, en Suisse.
En Suisse, hein, mais qui comprend aussi les tunnels, dont elle est valable un an. On l'a amorti sur une traversée. Il ne faut pas oublier qu'en Belgique et au Luxembourg, il n'y a pas de vignette.
Et une chose que tu ne sais pas, c'est que si tu prends le bateau à Ancône, hein, ce qui est sur la côte adriatique, tu passes tout près à proximité du circuit d'Imola.
Exactement.
Et pas loin du village où est né Valentino Rossi. Ouais,
Urbino. Et voilà.
Tu prends deux jours de plus pour partir et tu visites le petit village.
Et puis,
où est né Valentino Rossi et où il y a encore ses parents. Hein.
Et il y a encore ses parents là-bas. Exactement. Alors il y a une troisième solution, hein, qui est encore plus, qui est plus économique que passer par la Suisse, qui est un peu plus longue, mais on y gagne quand même. C'est la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et l'Autriche pour arriver en Italie. Là, la vignette ne coûte que 9 euros aller-retour. Il faut prendre deux vignettes à 4 euros, une à l'aller, une au retour. Et c'est encore moins cher. Un peu plus long, mais moins cher. Alors pour le bateau, l'ami, je vous disais, passer par Ancône. Moi, personnellement, je préfère passer par Venise. Pourquoi ? Plusieurs avantages. C'est le port le plus proche de chez nous. Il y a entre 1200 et 1350 km selon l'itinéraire choisi. Hein. Donc c'est moins de fatigue et c'est moins de péage en Italie. Sachant que les péages italiens sont chers, hein, on a les mêmes tarifs pour les motos que pour les voitures, et qu'envisager de traverser l'Italie par les routes nationales, le réseau secondaire, c'est 50 km/h, c'est laborieux.
Mais Yannis, quand on parle de bateau, faut aussi dire que c'est pas le Concordia, hein, c'est des bateaux sûrs.
Non,
ce sont des pilotes sûrs.
Hein. Ce sont des bateaux de gros ferry très sûrs. Hein.
Et c'est pas des capitaines qui t'abandonnent si jamais le bateau
absolument,
coule.
Absolument, bien sûr, hein. Ce sont des capitaines grecs.
Voilà, grecs.
Ce sont des compagnies grecques, donc il n'y a pas plus sûr qu'un marin.
C'est des gros bateaux.
Des gros bateaux énormes, ils prennent des camions, des voitures, des caravanes, des camping-cars, Burke, hein, mais surtout des, et bien sûr des motos, hein. Voilà. Et puis, il faut bien avouer qu'une étape à Venise, bah, c'est magique. Si on a le temps, on peut bien rester une journée ou deux à Venise. Il y a des campings juste à l'entrée de Venise.
Et oui, il faut préciser aussi que quand le bateau part, tu traverses la.
Et on traverse.
Tu passes devant
la lagune.
La place Saint-Pierre.
On traverse la lagune.
C'est le pied.
On traverse la. Voilà, on passe juste devant la place aux pigeons.
La place aux pigeons.
Et c'est vraiment magique. Alors, l'inconvénient relatif, hein, par Venise, c'est que la traversée dure 30 à 35 heures. C'est-à-dire, si on part dans la matinée.
Il faut aimer le bateau.
Il faut aimer le bateau. Alors, on en a ou bien pour une nuit et une journée de bateau complet, ou bien on embarque le soir et on a deux nuits de bateau, et on embarque sur le lendemain matin à l'aube, à Patras.
Quand tu es en moto, ça te permet de te remettre un petit peu tes 1500 bandes que tu viens de faire.
Absolument, hein, absolument. Et puis, c'est un peu la croisière, hein. Il y a la piscine sur le bateau.
Il y a piscine, c'est les
l'Adriatique, c'est absolument pas la mer du Nord.
Il y a une boîte de nuit, tout. Restaurant, self.
Exactement, c'est super agréable. C'est super agréable. On peut dormir sur le pont ou sur des sièges type.
Généralement, il fait beau, donc on peut dormir sur le pont.
Exactement. Il y a des gens qui campent, qui montent leur tente.
Tu peux monter la tente sur le pont.
Sur le pont, il y en a qui le font. Hein. Alors, tu nous parlais d'Ancône. Alors, la traversée est plus courte, ça c'est l'avantage, c'est que 22 heures. L'inconvénient, c'est que c'est 300 km de plus par rapport à Venise. Sur une autoroute, plein de bouchons entre Bologne et Ancône, c'est vraiment une sinécure, hein. C'est la purge. Il y a souvent des bouchons, c'est pas terrible. Il y a une autoroute assez dangereuse et inconfortable. C'est à peine moins cher que par Venise. Hein, donc on a 300 bandes de plus, c'est pas moins cher que par Venise et l'étape est infiniment moins sympa.
Par contre, tu passes pas à côté du petit village Valentino Rossi.
On passe pas à côté du circuit d'Imola, hein, c'est clair. Ouais. Et puis alors pour ceux qui ont vraiment envie de descendre dans le sud de l'Italie, hein, donc de se taper de la route, on peut passer par Brindisi ou Bari. L'avantage c'est que la traversée est encore plus courte, une quinzaine d'heures. L'inconvénient c'est 700 bandes de plus que par rapport à Venise et la différence de prix, il y en a pas, c'est exactement le même prix.
Ouais, on continue.
Voilà,
on est en train de parler avec Laurent, si on passe à la musique, on ne pourra plus parler de la traverse.
Alors, il y a plusieurs compagnies qui font la liaison, hein, Neckline, Mino Line, Superfast Ferry, Endeavor, Venturis. Il n'y a pas trop à se tortiller, c'est pratiquement partout le même prix, hein, au départ de Venise, mais je vous dis, que ce soit d'Ancône ou de Brindisi, c'est le même, ça se voit pas grand chose. Ouais. Alors, au départ de Venise, selon la saison, hein, basse ou longue ou haute saison, en passage pont, ça coûte pour le passage entre 90 et 131 euros. Aller-retour.
C'est pas cher, hein.
C'est pas très cher.
Parce que j'ai comparé les prix Marseille, la Corse.
C'est vraiment pas cher.
Alors que pratiquement, il faut combien 12 heures pour, non, 8 heures pour aller en Corse. Et là, il faut 25 heures.
Voilà, au minimum 15 heures, au maximum 35 heures. Donc, je répète, entre 90 et 131 euros, aller-retour en passage pont pour un passager et pour la moto, de 49 à 63 euros.
C'est pas cher.
Selon la saison. Alors, savoir quand même que pour un sidecar, on paye le prix d'une voiture. Et là, on est plutôt entre aux alentours de 120 euros. Voilà. Hein, aller-retour, 100 euros. Voilà. Pour un sidecar. Voilà. Et autant pour une remorque si on tracte une remorque derrière le sidecar.
Voilà. Et donc, et aussi une célèbre agence parisienne.
Voilà.
Donne les tarifs. Hein, il suffit de
aller sur Internet. Navifrance ou Viamar. Hein, ouais.
Voilà, on va donner deux comme ça, on n'a pas fait de pub.
C'est la même.
C'est la même.
Et on peut acheter les. Alors ils sont très très calés là-dessus, hein, c'est leur métier. Ouais. Ils vous donnent les meilleurs tarifs et on peut payer par CD en donnant par téléphone. Donc ça c'est
Yannis,
très
facile. On a pris le bateau et on arrive là-bas.
Là, on est arrivé là-bas.
Hein, c'est la première fois qu'on arrive dans ce pays. Là, que faire ? D'abord on est quand même un petit peu. Ça nous change un peu la Grèce, hein. Les trottoirs, tout ça, les routes, c'est pas pareil, c'est pas aussi uniforme qu'ici, en France, par exemple.
Voilà, ça n'est pas aussi uniforme qu'en France. Ceci dit, il y a eu pas mal de progrès. Il y a un nouveau réseau d'autoroutes. Oh,
à Patras, c'est un peu arrangé, Patras.
Voilà,
mais quand même, avant, il y avait quelques années où.
Exactement.
T'arrivais, tu disais, dans quel pays j'arrive ici?
Il faut faire gaffe. D'abord, le revêtement est souvent glissant. Alors, surtout parce qu'on mélange, un mélange de goudron et de ciment.
Pour éviter qu'il fonde, hein.
Voilà, pour éviter que ça fonde. Donc, ça peut glisser. Il faut faire gaffe. Et puis, on a une conduite en Grèce un peu à l'italienne aussi. On travaille beaucoup au klaxon.
Le klaxon.
Le feu passe.
Alors, si on klaxonne, faut pas vous vexer.
Voilà.
C'est parce que les Grecs, c'est comme ça.
Voilà, ils sont comme ça.
Ça klaxonne.
Mais c'est jamais agressif. Hein. C'est une conduite rapide, mais c'est jamais agressif comme conduite. Hein. À moins qu'on tombe sur un type là peut-être, hein, qui aime pas les touristes. Mais bon, il y en a pas beaucoup finalement. Hein. Donc, il faut faire gaffe à ça. Alors, où aller en Grèce? Alors, il y a deux possibilités.
Donne-nous des bons tuyaux là.
Des bons tuyaux.
Allez, des bons tuyaux.
On a deux solutions pour arriver en Grèce. Ou bien on arrive dans le nord-ouest de la Grèce, dans le port d'Igoumenitsa, ou bien à Patras, dans le Péloponnèse. Le circuit le plus classique, si on descend d'Igoumenitsa, on fait Igoumenitsa, Metsovo, dans le centre de la Grèce, dans le massif de l'Épire. On descend jusqu'aux météores, des météores. On va à Delphes.
Faut t'expliquer un petit peu ce que c'est que les météores.
Alors, hein, les météores, ce sont des rochers mégalithiques.
Oui, mégalithiques, voilà.
Au sommet desquels, très impressionnant, hein, au sommet desquels on a des monastères orthodoxes, hein. Certains sont accessibles aux touristes. On a une vue, c'est vraiment une région extraordinairement belle, hein, qui domine une plaine. Et là, j'ai un trou de mémoire. la plaine de Kalambaka, voilà. Hein. Et puis, de là, on rejoint Delphes et son célèbre, ses célèbres antiquités, hein, sur Delphes, au sommet, accrochons au Mont Parnasse. De là, on rejoint Corinthe et on peut envisager de faire très facilement le tour du Péloponnèse dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, pour reprendre, donc, en passant par Monemvasia, Le Magne, l'extrémité sud de la Grèce. C'est très très sympathique, c'est magnifique. Voilà, et on remonte progressivement sur Patras, d'où on peut reprendre le bateau pour l'Italie. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment le
tour du Péloponnèse, combien ça fait à peu près 250 km le tour, hein,
Il faut compter pour faire le tour depuis Corinthe.
Par contre, la Polonaise,
en retournant vers Patras, on peut compter un bon 400-500 km.
Ah ouais,
quand même.
Ah oui, si tu veux faire ces fameuses trois mamelles qui sont au fond du Péloponnèse. Si tu coupes, ça fait un peu moins.
Si tu coupes, il y en a
moins. Mais évidemment, dans le sud du Péloponnèse, c'est ce qui est très très joli, vraiment. Et on se retrouve dans la Grèce, voilà. qu'on pouvait rencontrer il y a 50 ans ou 40
ouais,
ans.
Ouais, c'est la Grèce des années 70 ou des années 60. La Grèce des années 60, avec des plages à perte de vue, sans personne.
Et au mois d'août. Personne sur la plage.
Plage de sable à perte de vue, de l'eau chaude. Bon, c'est fantastique, voilà.
Voilà, générique. Alors, écoute, il faut qu'on termine parce que j'ai encore plein de choses à dire.
Alors, on peut quand même aussi envisager de faire la Crète, parce que la Crète, c'est sympa.
Ah oui, hein, mais ça sera pour l'année prochaine.
Voilà, hein, la Crète, c'est la plus grande des
îles. On peut pas tout faire en même temps.
Et puis, on peut
partir. Parce qu'il y a les îles aussi en Grèce.
Il y en a plein. Et elles sont vachement sympas.
On en fera une l'année prochaine encore. En janvier. En juin. Voilà, l'émission se termine. Bon, je rappelle que notre invité, dimanche prochain, sera Alain Deloge, le président du motoclub de Neuvy. Notre invité offrira quelques entrées pour le 5e motocross classique international qui se passera le dimanche 10 juin. Donc rendez-vous dimanche prochain pour avoir quelques petites entrées. Hein, ce sera gratuit, on vous les offrira, on vous les enverra à la poste. Et puis je vous rappelle aujourd'hui qu'après l'émission, vous pouvez vous rendre au circuit de Lausanne car c'est le Triton Track Day aujourd'hui. Démonstration de moto solo et sicar organisée par les amis de la moto sur le circuit de la montagne de fer, ici, tout près du studio. Voilà, Yanis, merci de nous avoir expliqué un peu le protocole pour aller en Grèce, comment faire. C'est très simple, finalement.
C'est
faut
très
pas
simple,
avoir peur,
pour ceux qui auraient peur, il y a des agences spécialisées.
C'est un beau pays.
Il y a plusieurs agences tourisme moto en France qui vendent
des séjours aussi.
Tout compris. C'est un peu cher.
Patricia, merci pour cette interview de Jean-Paul de Tricourt.
D'accord. Et puis bon dimanche à tous.
Au mois prochain.
Oui.
Au revoir, passez un bon dimanche.
Merci la miche.